Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une quasi-inconnue, sauf probablement dans son quartier, La Mosson. Elle a pourtant de grandes responsabilités dans notre ville de Montpellier. Il est vrai qu'elle les détient depuis moins de 9 mois. Elle a donc à gagner en notoriété. Elle s'appelle Véronique Brunet, depuis le 10 septembre, succédant à Vanny Dombre-Coste, députée depuis juillet dernier. Elle a été élue première adjointe au maire, un poste bien sûr des plus importants et très exposé. Véronique Brunet, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour. Et merci à vous.
Eh bien, avec plaisir. Vous êtes montpelliéraine depuis 1981. Vous y avez fait vos études de STAPS, je décode, sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec un DEA, encore un acronyme diplôme d'études approfondies. On appelle ça aujourd'hui un master. DEA, donc, de réadaptation par le sport. Vous avez aussi en poche une licence de psychologie et un diplôme universitaire en médecine, santé et environnement. De 1989 à 2021, vous avez effectué votre parcours professionnel à l'Office départemental des sports, aujourd'hui dénommé Aerosport, dans le secteur société et solidarité. Vous avez également été très active dans la vie associative à La Mosson, La Paillade, comme je préfère le dire. Alors, ma première question, dans quelles associations, structures vous avez travaillé, apporté votre part à la vie associative du quartier?
Eh bien, en fait, je crois que j'ai une personnalité militante, effectivement. Et à mon arrivée à Montpellier, après quelques années, au fil des rencontres, je me suis engagée dans les conseils d'administration des associations que sont DEFI sur La Mosson et le comité départemental UFOLEP dans un premier temps. Effectivement, on parle d'éducation populaire, on parle d'accompagnement par le sport, d'accès aux droits. Mais également, j'ai été membre fondatrice avec Mme Christine Lazerge de l'association de prévention spécialisée APS 34. D'accord. De la manière associative, c'est
donc
par cette association-là.
Donc une entrée par l'éducation populaire, le sport, l'accompagnement.
Très oui.
Bien. Donc on voit un peu comment vous avez été enraciné, peut-être trouvé une partie de votre légitimité actuelle d'élu. Vous êtes membre du Parti Socialiste depuis 2002. En 2020, vous avez été élue adjointe au maire, déléguée au quartier Mosson et à la jeunesse. Vous êtes également conseillère de Montpellier Méditerranée Métropole. Depuis septembre dernier, donc, vous êtes première adjointe en charge des écoles. Plus précisément, selon l'intitulé officiel qui exprime une volonté, vous êtes déléguée à la ville éducative et à la réussite scolaire.
Oui.
Qu'est-ce qui explique vos engagements politiques croissants, là, de l'adhésion au Parti Socialiste à vos responsabilités dans la 7e ville de France, là, quel était le cheminement de vos engagements et peut-être de vos valeurs?
Je crois qu'à partir d'un engagement associatif, j'ai effectivement pris ma carte au Parti Socialiste en 2002, au lendemain de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles. Là, j'ai eu un choc et je me suis dit qu'il fallait agir.
Franchir un pas. Quoi,
voilà, cas. Exactement. J'étais dans ma jeunesse plutôt plus à gauche que le Parti Socialiste, mais ça m'a paru être le bon choix.
Vous ne l'avez pas regretté depuis?
Pas du tout. Absolument pas, parce qu'en fait, je crois que j'aime les gens, j'aime leur humanité et je crois en les valeurs fondamentales du Parti Socialiste pour participer à la transformation de la vie des gens. Et quand Michaël Delafosse est venu me solliciter pour l'aider à bâtir le programme en 2019 pour les élections de 2020, eh ben, parce que c'était lui, j'ai dit oui. Je le connaissais en tant que conseiller départemental. Je sais son intégrité, son honnêteté, sa volonté et sa vision et son amour pour la ville de Montpellier aussi. Voilà, j'ai dit OK pour la première fois. Participer à une élection municipale.
La première étape et après première adjointe, là c'était une autre étape et un autre niveau de responsabilité qui vous a été proposé, j'imagine, et que vous avez bien voulu accepter.
C'est ça, en fait j'ai commencé le mandat avec une délégation, comme vous l'avez dit, au quartier Mosson et à la jeunesse, deux très belles délégations d'ailleurs. Et quand Fanny Dombrecoste, comme vous l'avez dit, a été élue députée, Monsieur le maire m'a sollicité pour pouvoir assurer la continuité. Et ça a été un grand honneur pour moi.
Et un plaisir aussi, peut-être.
Bien sûr.
Très bien. Alors, on va voir ça dans le détail dans quelques minutes.
Avec plaisir.
Avant que vous nous parliez donc de vos activités, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Véronique Bonnet, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement et que vous conseillez à vos amis de passage ?
Oh, alors à Montpellier, quand je reçois des amis de passage qui ne connaissent pas la ville, bien évidemment, je les fais arpenter l'Écusson. Je trouve que nous avons un cœur de ville absolument magnifique avec des ruelles, des placettes où des terrasses nous invitent à prendre un moment de plaisir et de douceur. La place du Pérou, évidemment, un lieu collectif, un lieu de rassemblement où depuis les concerts jusqu'au marché de Noël, la comédie du livre, le marché des brocanteurs, en raison des travaux sur l'esplanade, y ont trouvé place d'une manière tout à fait adaptée.
Avec succès pour le coup, parce que le déménagement de la comédie du livre, de l'esplanade au Pérou avait suscité des interrogations avant, et pour le coup, c'est un bon choix.
C'est un bon choix. Je crois que cette place, elle est symbolique d'un lieu de rassemblement collectif. J'en veux pour preuve les célébrations du 14 juillet et le lieu de départ de la Gay Pride également. Mais au-delà de l'Écusson, j'amène mes amis aussi au Jardin des Plantes. Et comme je suis de tout cœur avec le quartier de la Mosson, je les amène aussi au cœur de ce quartier populaire, faire la randonnée du parc Sophie Desmarais jusqu'au lac des Garrigues.
Oui.
Et où on découvre une pépite le long de la Mosson, dans ce grand parc Mosson. Et donc, ce sont mes lieux préférés de la ville pour l'instant.
Et alors, deuxième question, on en vient au cœur de notre sujet. Parmi les métropoles françaises, qu'est-ce qui, selon vous, distingue Montpellier ? Quels sont les caractéristiques, peut-être les caractères singuliers de notre ville ?
Moi, je crois que Montpellier est une vraie ville du Sud, avec un esprit Sud. Je crois que ce qui nous caractérise, c'est d'être une ville d'accueil, une ville de la fraternité, une ville de la diversité. 80 000 étudiants chaque année, des seniors qui viennent aussi prendre leur retraite un peu plus au soleil peut-être que leur lieu d'origine. J'en rencontre beaucoup quand on fait les soirées d'accueil des nouveaux Montpelliérains, que ce soit des jeunes ou des seniors, qui profitent pleinement de la ville, encore plus depuis la gratuité des transports. Je crois que Montpellier est une ville qui développe la fraternité, la rencontre, et est une ville également aussi de tourisme architectural, je pense.
Oui, avec
de la Fosse, il y a été pour beaucoup, voilà, les Folies.
Bien sûr, le patrimoine ancien,
oui,
17e, le plus récent, et bien sûr, les Folies et celles qui nous attendent dans les années qui viennent.
Et puis, c'est peut-être similaire dans les autres métropoles, mais Montpellier a une grande force dans l'ensemble de ses quartiers. Des comités de quartier, des associations actives qui font une vraie vie de proximité. La ville vibre, en fait.
Bien, on va décrire certains de ces aspects en parlant de vos différentes activités, en commençant par la Mosson, dont vous avez gardé la responsabilité, la délégation, comme on dit, au sein du conseil municipal. Alors la ZAT, la zone artistique temporaire, s'y est déroulée les 4 et 5 avril. On avait ici reçu Loïc Garcionnier qui avait orchestré la programmation. Alors, quel bilan vous en tirez ? Je vous propose de le faire sur trois plans. Et le premier, que pensez-vous de ce qu'a été la participation active, effective des habitants à ce grand rendez-vous de la ZAT ?
D'abord, permettez-moi de dire que ce grand rendez-vous de la ZAT a été un vrai moment de joie partagée, une parenthèse magique dans les temps globalement difficiles au niveau national, international et de l'ambiance que nous vivons. Cette ZAT a été une bouffée d'oxygène pour beaucoup d'entre nous. Concernant la participation des habitants, vous l'avez cité, je voudrais louer et remarquer le travail de Laurie Kersonnier, effectivement, qui n'a pas manqué, avec toute une équipe autour d'elle, de contacter l'ensemble des associations et des acteurs du quartier pour les associer à cette ZAT. Donc ça a été une ZAT qui invitait les Montpelliérains à venir à la Paillade découvrir tout un tas de choses, et les spectacles évidemment, mais qui a su faire participer les Pailladins et encore plus les rendre fiers de leur quartier que ce qu'ils l'étaient avant. La ZAT, ça a été quand même un gros succès avec près de 100 000 spectateurs sur le week-end.
Oui, alors précisément, ça entraîne ma deuxième question, qui est celle du lien de ce quartier, de ce grand quartier, avec le reste de la ville, de l'image probablement insuffisante, voire fausse, que porte le quartier. Est-ce que la ZAD, bon, ça n'a pas réponse à tout, mais ça a été un élément d'accrochage ou de lien, de connexion entre la Mosson et le reste de la ville?
Oui, je crois sincèrement que M. le maire a eu une très bonne idée en mettant la ZAD à la Mosson à ce moment-là, puisqu'on est à peu près au cœur du développement de renouvellement urbain dans le cadre de notre mandat. Hein. Et la ZAD a été le déclencheur de la venue sur le quartier d'un certain nombre de Montpelliérains et de métropolitains, qui sont venus avant tout pour les spectacles culturels, évidemment, mais qui, du coup, ont pu découvrir, puisqu'il y avait tout un cheminement et des parcours le long du Grand Mail, et, comme je vous le disais, de la maison Sophie Desmarais au lac des Garrigues, donc à travers le parc de la Mosson. Certains Montpelliérains et métropolitains ont découvert ce grand parc.
Ah oui, ça j'en connais, oui, parce que bon, l'idée, il n'y a que les immeubles. Bon,
oui, c'est ça, exactement.
En gros, il n'y a que des HLM, point final.
Et c'est une pépite de nature, ouais, absolument somptueuse, avec des endroits où on peut se poser, où on peut s'arrêter, magnifique. Donc oui, je crois que les Montpelliérains, pour ceux qui sont venus à la ZAD, ça a été une occasion de renouer avec la paillade.
Alors, vous l'avez évoqué, le quartier Mosson, le territoire, l'espace d'une vaste et très ambitieuse opération de rénovation urbaine.
Oui.
C'est comme ça que ça s'appelle. Sur l'impulsion de la ville, la métropole, elle va se déployer d'ici à 2030. Alors, de quel diagnostic cette opération résulte-t-elle, bon, et quels sont ses objectifs principaux?
Alors, nous avons poursuivi l'opération de renouvellement urbain qui avait été engagée précédemment, mais effectivement, Michaël Delafosse, de manière très volontariste, a souhaité lui donner une impulsion et une dimension nouvelle. Les grands objectifs du renouvellement urbain, c'est d'enrayer la spirale de dépréciation du quartier, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, effectivement, et de lui redonner de l'attractivité. Donc le fait d'engager un demi-milliard, 500 millions d'euros sur le quartier et de travailler tant sur l'urbain par différentes phases que sur l'humain, j'y tiens et j'insiste.
Il n'y a pas que du béton.
Voilà, c'est ça. Il y a aussi un accompagnement des actions, des acteurs du terrain à 360 degrés sur un ensemble de thématiques éducatives, économiques, sociales, urbanistiques. C'est en quelque sorte participer à une nouvelle ambition pour ce quartier, au fait que les habitants s'y sentent mieux, ils vivent de manière plus apaisée, et que les Montpelliérains et les métropolitains aient envie d'y revenir, comme c'était le cas autrefois.
Y revenir, soit pour des raisons économiques, soit pour leur loisir.
Exactement.
Par exemple. Alors, cet ensemble d'actions de réhabilitation globale du quartier doit bénéficier, vous l'avez dit, d'environ 500 millions d'euros d'investissement. Je cite les financeurs, outre bien sûr la ville et la métropole, l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'État, la région Occitanie, le département de l'Hérault, l'Agence nationale de rénovation de l'habitat et des organismes HLM. Alors, 500 millions, bon, ça ne dit pas grand-chose à la plupart d'entre nous, à la plupart des auditrices et des auditeurs. Quels sont les grands volets, sans rentrer dans le cadre d'un catalogue dans lequel on se perdrait, qui constituent l'armature de ce programme de rénovation urbaine?
En fait, le quartier est considéré dans sa totalité, c'est-à-dire que si on part du sud au nord du quartier, chaque micro-quartier, vous savez que c'est un quartier de 25 000 habitants, pardon, avec une étendue assez conséquente, le Grand Mail va faire l'objet d'un traitement, l'entrée sud du quartier également. Il y aura la destruction, il y a eu la destruction de 868 logements sociaux pour une reconstruction de 1100 logements non pas dédiés aux bailleurs sociaux, mais bien plus à des publics cibles, jeunes actifs ou familles sur des métiers essentiels. Il y aura la...
Alors je vous coupe, il y a la destruction de la tour...
de manière emblématique,
voilà,
de la tour d'Assas, bien sûr.
La tour d'Assas, voilà, qui est peut-être le... rend visible, incompréhensible l'ampleur de l'opération, parce que cette destruction qui a été préparée, annoncée...
La tour d'Assas, le premier coup de pelle a eu lieu le 11 juillet 2023, voilà. En même temps que la signature du démarrage du chantier de la zone de logement Cité-Jardin, qui est aujourd'hui sortie de terre et dont les premiers logements sont affectés. Autour de la tour d'Assas, il y a eu un travail de mémoire très important, un accompagnement au relogement. Le but, c'est de créer de la mixité sociale sur le quartier, effectivement. Et sur les grands chantiers, je vous parlais du sud, de l'entrée sud, du traitement des grands mailles, de l'ouverture de cours, mais je pourrais aussi vous parler peut-être tout à l'heure de la construction des nouveaux pôles éducatifs.
On en parlera, oui.
De la réalisation du commissariat mixte, police nationale et police municipale.
Qui est bien avancé, là, pour
voilà,
le coup.
Voilà, qui va être inauguré très bientôt.
L'hôtel des sécurités, c'est ça son nom?
L'hôtel des sécurités, il prendra place sur le bidonville à Celle-Neuve.
Ah,
là, on parle vraiment d'un commissariat
du
mixte.
Du quartier.
Exactement.
Mixte, c'est-à-dire police nationale et police municipale.
Voilà.
D'accord.
Pour la première fois, ensemble, dans des locaux. La piscine Neptune, le gymnase Pierre de Coubertin dédié en même temps au public en situation de handicap. Le quartier est en train de bouger et d'évoluer dans le sens, comme je vous l'ai dit, de lui redonner l'attractivité et d'apaiser la vie pour les habitants et de les rendre plus confortables dans leur quartier, comme l'ensemble des Montpellierains.
Donc, il y a quelque chose autour des logements, hein.
Oui.
Soit nouveau, soit aménagé. Il y a quelque chose autour des espaces publics, de la fluidité de la circulation et de l'usage partagé du quartier. Et puis un volet équipement public, notamment avec les écoles dont on va parler.
La piscine, le gymnase, le commissariat, etc. etc. Donc, et l'espace Gisèle Halimi.
Voilà, ça on va en parler parce que bon, ça fait partie du réalisé. Alors, sur la vision d'ensemble, récemment, un élu de l'opposition, Alain Cadoulin, du groupe Montpellier Union Populaire Écologique et Sociale, a déclaré, je cite, hein, « Les habitants subissent la rénovation urbaine ». Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je lui réponds que c'est un point de vue qui lui appartient et j'aimerais bien qu'elle me présente les habitants qui subissent cette rénovation urbaine. À moins de subir une partie de travaux, c'est certain, mais comme dans l'ensemble de la ville de Montpellier, on
ça,
peut subir
les Montpellierains subissent
voilà.
Le développement du tram et autres...
Mais quand les travaux sont réalisés, a priori, c'est pour un mieux et dans l'intérêt général. Mais le fait de dire que les habitants subissent la rénovation me paraît tout à fait faux ou déplacé. J'en veux pour preuve le nombre d'ateliers de concertation réalisés sur site, les opérations menées avec les maisons pour tous, la médiathèque sur des publics jeunes qui ont co-construit par exemple la rue aux écoliers devant l'école de Barry, l'urbanisme transitoire qui est mis en place, qui est co-construit avec les habitants du quartier.
C'est quoi l'urbanisme transitoire?
En fait, ce sont des petits aménagements qui nous permettent d'occuper des espaces et de tester des usages avant de pouvoir les mettre en place de manière définitive. Par exemple, la rue aux écoliers entre Gisèle Halimi et le groupe scolaire.
C'est, c'est pas trop coûteux, c'est pas trop compliqué.
Exactement,
à monter.
Non,
ça, on teste
voilà,
en vraie grandeur et on voit si on poursuit, on généralise le dispositif.
Et comment on capitalise le fait que les habitants, justement, ceux qui ne subissent pas mais qui s'investissent dans l'amélioration de leur quartier, et c'est la grande majorité, vivent cet espace et nous donnent des indications pour le faire encore plus en correspondance avec leurs usages, leurs besoins et leurs envies.
Très bien. Alors, vous l'avez évoqué, une des réalisations qui semble emblématique, c'est l'espace Gisèle Halimi. De quoi s'agit-il?
Oh, l'espace Gisèle Halimi. Donc, Michael Delafosse a souhaité que dans cet ancien bureau, dans cet ancien local de bureau de l'URSSAF, soit réalisé un bâtiment de service public.
Ah oui, je vois, d'accord.
Juste en face des Halles.
D'accord. Oui.
Immeuble un peu des années 70. Et donc, au sein de cet espace Gisèle Halimi aujourd'hui, on trouve le CCAS, où on peut faire des domiciliations en dehors de tous les services, ce qui est particulièrement important sur le quartier, la mission locale pour les jeunes, une école régionale du numérique, un espace de diagnostic de la CPAM, espace unique dans le département, l'autre plus proche étant à Perpignan.
Ah oui.
Alors, je précise, ce n'est pas un lieu de consultation, c'est un lieu de diagnostic sur une demi-journée. On est vu par un ensemble de professionnels et on ressort avec des préconisations de suivi au niveau santé global. Il y a également la mission territoire, la mission projet Mausson-Cévennes, qui est logée dans ce bâtiment.
Voilà, ça, je dis au passage qu'il y a une autre opération de Vincent Rubin dans le quartier des Cévennes.
C'est ça.
Et donc, il y a un lieu de travail, d'ouverture, d'information
voilà.
Sur ces deux opérations.
Les bureaux sont dans le siège social de Gisèle Halimi. Mais également un restaurant d'insertion, un Fab Lab, une folie numérique. En fait, c'est une ruche. Et on constate aujourd'hui que 300 visiteurs par jour se rendent à Gisèle Halimi. Toutes générations confondues, pour diverses raisons.
Très bien.
Une permanence de 22 associations également tout au long de la semaine. Une ruche.
Bien, il faudra aller voir donc.
Oh oui,
alors,
sentez-vous chez vous, vous êtes invité, c'est public et ouvert à tous.
Alors, abordant la question des écoles, on l'a évoqué avant de développer le sujet sur les écoles. Concernant les écoles, les équipements scolaires qui sont en route dans le quartier donc, de la Mausson. Vous pouvez en dire un petit mot
oui.
Et puis on élargira le sujet.
Dans le quartier de la Mausson, il y a deux pôles éducatifs en cours de réalisation. Mmh. Le pôle éducatif des Halles, qui est destiné à reloger le groupe scolaire type Pailleron, donc très vieilles écoles qui avaient absolument besoin de rénovation ou de reconstruction, ce que nous avons choisi, avec deux îlots, pôle éducatif des Halles sud et pôle éducatif nord, pour que les travaux se fassent en deux phases et les déménagements en deux phases. Celui-là, hélas, a pris un an de retard en raison du dépôt de bilan de l'entreprise
majoritaire. Donc c'est renvoyé à la rentrée 2026.
Exactement. Par contre, en 2025, nous ouvrons le pôle éducatif Hypatie, avec une section où l'enseignement sera de type Émile, c'est-à-dire enseignement des matières avec intégration de langues étrangères, de l'éducation à l'image, au numérique, pour commencer là un parcours qu'on pourra continuer au gymnase des Garrigues, où s'ouvriront dans deux rentrées des classes à horaires aménagés numériques, pour le continuer sur les lycées Jean Monnet, en clair, un parcours éducatif autour des métiers du numérique qui s'offre aux enfants du quartier et des autres quartiers qui souhaiteraient intégrer Hypatie, où pour la première fois dans la ville de Montpellier, le périscolaire sera réalisé en anglais.
Ah, très bien. Alors, Hypatie, bon, j'ai cherché, tout le monde ne connaît pas. C'est une femme, philosophe, mathématicienne et astronome d'Alexandrie, assassinée par des chrétiens fanatiques, je dis bien des chrétiens fanatiques, en 415. Alors, nous abordons donc, on l'a fait par cette entrée Mausson, le plan école 2030, qui a été lancé par la municipalité. Alors, pareil, quelles sont les grandes ambitions de ce plan, donc on ne pourra pas, chacun le comprendra, présenter dans le détail.
Alors, si vous permettez, je vais vous préciser que, justement, en prenant la suite de Mme Dombrocos à la délégation éducation, magnifique délégation, j'ai découvert que la ville de Montpellier, enfin, je l'ai découvert plus en finesse, comportait 116 écoles, 42 centres de loisirs, 21 associatifs, 21 municipaux, 88 restaurants scolaires et 200 000 mètres carrés de locaux, de bâtiments terres dédiés à l'éducation, évidemment, à entretenir et à rénover.
Donc, un énorme patrimoine.
D'où le plan École 2030, qui est un plan d'investissement de 400 millions d'euros qui servira à construire, rénover et adapter, selon un plan de déploiement, les écoles de Montpellier pour les rendre plus inclusives, plus écologiques et donc plus favorable à l'épanouissement et à la réussite éducative de nos jeunes élèves montpelliérains.
Donc ça justifie l'intitulé de votre délégation, puis c'est sa concrétisation en quelque sorte.
Exactement, monsieur le maire a voulu déployer également le concept d'une ville à hauteur d'enfant. L'éducation est une politique prioritaire du mandat. Le fait de signer la convention avec Francesco Tonucci de la ville à hauteur d'enfant nous permet de réfléchir avec les enfants, avec et donc pour les enfants, de co-construire et d'élaborer un certain nombre de choses dans la ville. Et donc, autour des écoles, un grand plan, au-delà des rénovations énergétiques prévues, un grand plan de déploiement des cours aventures qui permettent la désimperméabilisation, mais également la co-construction avec les élèves d'espaces calmes, d'espaces de jeux collectifs, le retour à la nature, puisque ces cours sont dotés de
spotagers. Bon, on enlève le bitume et le béton.
Voilà.
Pour y mettre, je simplifie peut-être à outrance,
de la nature et du potager. Voilà. Mais on réaménage les espaces de jeux également. Donc 20 cours aventures ont été réalisés par le mandat, 20 parvis aux écoliers. On sécurise les abords des écoles de différentes façons, selon la configuration urbanistique de l'entrée de l'école, par la mise en place d'un agent de prévention ou alors par la construction avec les enfants d'un parvis aménagé, sécurisé, où ne passent plus les voitures. Et on construit également, dans le plan École 2030, des selfs pour fluidifier et responsabiliser la restauration scolaire au niveau des élèves.
D'accord. Donc, je donne les chiffres pour ce qui est du bâti. 7 nouveaux groupes scolaires, 4 extensions, 7 reconstructions. Et donc, les rues aux écoliers, notamment, là, qui assure la sécurité, l'accès aux écoles, à pied ou à vélo.
Qui permettent d'être des lieux de
retrouvailles. Donc un plan qui a démarré, 16 rues aux écoliers réalisées et 20 en projet. Donc ce plan, donc on ne pourra pas encore une fois regarder dans le détail, rénovation énergétique des bâtiments, les îlots de fraîcheur, vous l'avez dit, également des mesures d'accessibilité des élèves qui sont en situation de handicap.
Oui, nous tenons beaucoup à apporter des ressources complémentaires autant que nous le pouvons aux équipes des agents municipaux que je veux ici remercier pour leur engagement et leur investissement, mais également à l'ensemble de la communauté enseignante, tant sur le thème de l'inclusion que de la lutte contre le harcèlement, que de pouvoir accéder à des ressources en matière d'accompagnement par le sport, par la culture, par les sciences. La possibilité sur la ville de Montpellier, depuis l'arrivée de Michaël Delafosse également, d'un soutien public, laïque et gratuit, 76% des écoles concernées.
Oui, c'est le travail à la maison qui se fait accompagner, notamment dans les maisons pour tous, les médiathèques.
Ça, c'est encore autre chose. Voilà. En plus, le soutien public laïque et gratuit, ce sont les enseignants volontaires qui sont indemnisés par la ville pour accompagner leurs élèves en difficulté.
Très bien.
Une dotation pédagogique augmentée, des vidéoprojecteurs, ordinateurs et tableaux livrés dans toutes les classes, de la maternelle au CM2, des séjours encouragés, bref, des efforts et une politique publique volontaire mise en place là aussi pour un mieux-être et une école plus bienveillante et plus accueillante.
Très bien. On a balayé les grands chapitres, donc on s'achemine vers la fin de l'émission. Une question plus générale et plus politique, pour le coup. Les élections municipales auront lieu en mars prochain,
oui.
Dans 10 mois. Quels sont, selon vous, les enjeux de la fin du mandat ?
Les enjeux de la fin du mandat, permettez-moi de vous partager quelques dates, si vous me l'autorisez. Ce soir, nous allons réouvrir le Carré Sainte-Anne. Soyez tous bienvenus.
Après de longs travaux de restauration de ce bâtiment classé monument historique.
Le 21 juin, c'est la fin des travaux de l'esplanade. Le 22 juillet, c'est le passage du Tour de France à Montpellier, ville sportive pour laquelle il y a eu un grand plan de rénovation des équipements sportifs également. En septembre, la place Max Rouquette des Arceaux sera terminée. Le 18 octobre, il y aura l'extension de la ligne 1 du tram jusqu'à la gare sud de France. Le 26 novembre, nous inaugurerons la place des Martyrs de la Résistance à la préfecture. Et je tiens à informer l'ensemble de vos auditeurs, sentez-vous bienvenus vraiment, que ce sera également l'anniversaire de la ville, à cette occasion qui sera fêtée, 1040 ans.
Ah, l'anniversaire de la création de
Montpellier,
le Mons Pelluarum qui
sera
fêté.
Voilà, le 26
fêté.
Novembre.
Très bien.
Le 20 décembre, nous inaugurerons la ligne 5 de tramway,
très
qui
attendu.
Est un des grands chantiers du mandat avec la rénovation urbaine de la Mousson. Donc, ces quelques dates nous permettront de mettre en lumière les réalisations effectuées par ce mandat qui a mis en œuvre la gratuité des transports, qui a accompagné la pratique du vélo avec le développement des pistes cyclables, qui a réussi à maîtriser un budget, qui a mené une politique sociale et écologique portée par une équipe d'une majorité d'Union de la gauche pour une ville dont l'ambition et le dynamisme et la chaleur des rapports entre ses habitants.
Très bien. Alors, on arrive presque au terme de cette émission, madame. Donc, dernière question. Dans vos actions d'élus, quelle est l'idée reçue, l'idée fausse que vous rencontrez souvent, qui vous exaspère peut-être, que vous vous efforcez de contester ou d'évacuer ? Dans vos contacts avec la population, je dirais, ce que les conditions dans lesquelles les gens vous interpellent, par exemple, quelque chose qui vous paraît relever d'une méconnaissance du travail de l'élu, par exemple.
Je pourrais vous dire plusieurs choses, mais si on reste sur l'idée reçue, certainement que culturellement, des idées reçues pourraient m'exaspérer et les recevoir pourraient effectivement me créer une forme de frustration ou de crispation. Mais l'idée reçue, pour moi, c'est une parole populaire partagée. Et en fait, j'essaye de ne pas m'exaspérer des idées reçues, quelles qu'elles soient, qu'elles soient formulées par des électeurs, des habitants, des citoyens, qu'elles me viennent à l'esprit. Je trouve que l'idée reçue, c'est ajouter du crédit à des fausses croyances. Et je serai plus dans respecter le point de vue de chacun, la possibilité d'en débattre, dans le respect interindividuel. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Donc, comme dit le maire, être à portée d'interpellation, voire d'engueulade.
Oh que oui.
Eh bien, sur ce, que oui, je vous remercie, madame, de votre participation à cette émission et à une prochaine fois.
Grand merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qu'ils figurent ou pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, un pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.